Marie-Christine Manuel, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs.
Alors, c'est la première fois que vous intervenez dans le cadre de nos émissions sur la psychologie. Donc, avant de parler du thème que vous souhaitez traiter aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Donc, je suis psychologue et membre de l'AP21, qui est une association nationale de psychologues catholiques. J'exerce à Marseille en tant que psychothérapeute, mais surtout thérapeute de couple et de famille. Et mon expérience, elle s'appuie sur plusieurs secteurs, celui de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse et du milieu aussi du sujet âgé, le milieu aussi du handicap et de l'éducation. Voilà.
Alors, de quel thème allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, je vais parler de l'amour en psychologie et en particulier sur la notion de don d'amour. Voilà.
Nous vous écoutons.
Très bien. Alors, quel exercice délicat que celui de parler de l'amour. Tout le monde parle d'amour. L'amour est mis à toutes les sauces. L'amour dure 3 ans, par exemple, dit-on, ou bien faire l'amour sans amour, ou dire « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie », pas du tout, exactement. Tout le monde sait ce qu'est l'amour, jusqu'à ce qu'on nous demande de le définir. Pourtant, dans l'intimité des entretiens psychologiques que j'ai à mon bureau, l'amour est au centre des mots, M-O-T-S, et des mots, M-A-U-X, souffrance, doute, déception, espoir, désir et joie. Au-delà du sentiment d'amour et de l'attachement qu'il procure, notre façon d'aimer l'autre, que ce soit un parent, un enfant, un époux, ou bien la fratrie, ou bien des amis, eh bien l'amour est parfois guidé par notre histoire personnelle et surtout par la manière dont nous avons été aimés. Enfant, si je me suis sentie aimée, je me sens quelqu'un de bien et je développe en moi cet amour de soi. Et je peux ensuite donner de l'amour. Parfois même, enfant, si j'ai pu être lésée par ma famille, par mon entourage, par des négligences, par des abandons, des violences, par la maladie qui peut parfois attaquer ma famille, par le deuil ou par l'inceste, j'ai pu, par loyauté, donner de l'amour malgré tout. Mais devenue adulte, je peux être tentée de demander injustement des comptes à mes propres enfants ou à mon entourage ou dans mon couple pour réparer ces fameuses souffrances d'enfants. En effet, il n'est pas toujours facile de pardonner de par, P-A-R, trait d'union donné, pardonner. Cependant, malgré les blessures et les traumatismes, il y a l'espérance et la rencontre de quelqu'un, un ami, un éducateur, un catéchiste, un prêtre, qui peut nous redonner confiance en nous et en l'autre, nous soutenir, nous guider vers le chemin de l'amour sincère et du parler vrai. Et cette dynamique, cette réparation des blessures s'appelle la résilience. Et c'est surtout dans l'épreuve que l'amour se manifeste. L'amour peut prendre différentes formes. En effet, aimer n'est pas seulement dire « je t'aime », c'est aussi et surtout poser des actes d'amour. Car c'est dans l'épreuve que l'amour se manifeste pleinement. Je me souviens de cette mère de 70 ans qui avait une fille âgée de 30 ans. cette jeune femme était dépressive et cette mère venait me voir pour comprendre ce qui se passait avec sa fille. Elle voulait aider sa fille le mieux possible. Mais plus elle était disponible pour elle, jour et nuit, plus sa fille lui faisait des reproches. En consultation, elle prit conscience qu'en lui disant non, en lui donnant des limites, elle pouvait aussi donner de l'amour à sa fille, en lui disant « S'il te plaît, ne me sollicite plus de 10h du soir à 8h du matin, car j'ai besoin de me reposer. Ainsi, je pourrai mieux m'occuper de toi dans la journée. » Elle lui donnait ainsi son amour sans la blesser. Sa fille comprit et leur relation s'améliora nettement. Car l'amour est d'abord relation, aussi vivante que des personnes. D'habitude, en mathématiques, nous disons que 1 plus 1 égale 2. Mais dans l'amour, 1 plus 1 égale 3. Une personne, une autre personne, et la relation aussi vivante que les personnes. L'amour a sa propre force, son identité. Parfois, nous nous aimons, mais mal, de manière exigeante et égoïste. À chacun de faire grandir, d'entretenir et d'enrichir cette relation d'amour. Au-delà de l'acte en lui-même, c'est la façon de le faire qui est le plus important. Je viens de terminer une tarte aux pommes pour le petit déjeuner. Mon mari me regarde en disant « Merci, tu l'as faite avec amour. » Ainsi, le quotidien est l'occasion d'aimer par des gestes banals, car l'amour est reconnaissance aussi. Par un merci, par un sourire. Mais l'amour sincère est aussi amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Je t'aime comme tu es et non pas comme je voudrais que tu sois. Je me souviens d'un père qui n'acceptait pas que son fils refuse de reprendre la boutique d'alimentation qu'il avait créée. Son fils voulait faire de la musique. Les conflits entre eux étaient nombreux et la mère était désespérée. En consultation, le fils interpella son père en lui disant « Toi, tu ne m'as jamais aimé. Il n'y a toujours eu que ton magasin. Tu ne m'as jamais emmené à un match de foot. Tu n'étais jamais là. » Le père répondit « J'ai fait tout cela pour vous, pour que vous soyez bien, car je vous aime tous. Je croyais bien faire. » Le fils en pleurs lui raconta « Si j'aime la musique, souviens-toi, c'est parce que quand on partait à la messe du dimanche soir, on chantait dans la voiture. » Et ainsi, ils se prirent dans les bras l'un de l'autre, en pleurant. Dans toute relation d'amour, il y a des malentendus et de la souffrance quelquefois. Jacques Salomé dit « le tu » comme quand nous disons « tu fais, tu es, tu dois » le tu, tu au sens tuer. Le tu abîme la relation. Mais les conflits, les cris sont parfois aussi le signe d'une attente, d'une affection vis-à-vis de l'autre. Ces malentendus sont alors l'occasion d'exprimer son amour par le soin de prendre le temps de la parole. Je ressens, j'ai besoin, je te demande, je te remercie. Ce temps pris dans le quotidien, lourd quelquefois, c'est aussi celui de l'écoute et du dialogue, du don et du pardon. Le pardon étant l'acte d'amour par excellence. Il recrée la relation et l'alliance. Là où il y avait la rupture, il y a restauration des liens. L'amour est surtout confiance en l'autre, en la relation d'amour. Quoi qu'il arrive, je sais que l'autre agit pour mon bien et le bien de la relation. C'est ça la confiance. Les jeunes parents donnent plus à leur bébé que ce qu'il leur rend. Mais les parents l'accueillent et l'acceptent la plupart du temps, car ils sont devenus parents grâce à la naissance de cet enfant. Ils ne se sentent pas lésés, car ils n'attendent pas de retour. Mais les parents sont aussi disponibles pour recevoir tout ce que l'enfant va leur rendre. C'est ce que l'on appelle le contre-don. L'amour est aussi générosité, c'est-à-dire qu'il pousse à donner plus que ce que l'on est tenu de donner. Aller au-delà de la vertu de la justice, c'est donner ce qu'on est tenu de donner. Et cette vertu de la justice, aller au-delà de la vertu de la justice, correspond à la charité. Mon ami et collègue Vincent Lopi dit « La générosité et le pardon sont les expressions les plus élevées de l'amour. Elles traduisent la richesse et la beauté du don. Le don est au cœur du mystère de l'homme, au cœur du message évangélique. L'amour est au cœur des réalités les plus élevées. L'amour, simple, fondamental, confère la beauté aux choses les plus ordinaires de la vie. Donner et pardonner exige tout un travail de maturation psychologique et spirituelle pour enrayer les mécanismes complexes de la frustration et de la blessure. Mais nous pouvons aimer jusqu'au bout. Je me souviens d'une jeune femme en consultation qui passait son temps à me faire des reproches concernant les comportements cruels et les comportements humiliants, les propos désobligeants de sa mère. Un jour, elle vient en consultation et me dit « Ma mère a été hospitalisée et j'ai tant de choses à lui dire, mais maintenant c'est trop tard, je sais qu'elle va mourir. » Alors je lui pose la simple question. Imaginez-vous le lendemain du décès de votre mère. Qu'allez-vous ressentir ? Elle se lève en colère et me dit « Vous êtes vraiment une mauvaise psychologue, je vous en veux. » Et elle partit en claquant la porte. J'avoue que j'étais quelque peu inquiète de son comportement, mais j'avais confiance. Confiance à la relation que nous avions créée depuis plusieurs mois. Et quelques semaines se passent et je reçois à nouveau cette jeune femme en consultation. Et quand je la vois, j'ai eu une impression étrange. Elle pleurait et souriait en même temps. Elle s'approche de moi et elle me dit « J'ai vraiment été très très en colère contre vous. Je ne pouvais pas imaginer le lendemain du décès de ma mère. » Mais je suis allée vers elle et j'ai passé toute une nuit à côté d'elle, au pied de son lit. Ma mère ne parlait plus, mais elle me parlait avec ses yeux. et j'ai pensé que j'avais tant de choses à lui dire pour ne plus lui en vouloir. Et quand j'ai commencé à lui dire « Maman, je t'en veux », ma mère m'a regardée avec des yeux d'amour. Et je lui ai tout dit. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis toute petite, depuis mon enfance. Et ma mère continuait à me regarder, à m'écouter attentivement. Nous nous sommes pris la main, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée et je lui ai parlé toute la nuit. Non, je ne lui ai pas parlé toute la nuit. Nous nous sommes parlé, elle avec mes mots, les mots qui sortaient de mon cœur, les mots qui sortaient de ma bouche, les mots qui sortaient de mon esprit. Et elle me parlait avec ses yeux d'amour, avec son sourire d'amour et avec sa tendresse que je trouvais enfin en elle. Et nous nous sommes parlé toute la nuit. Et le lendemain, nous nous sommes endormis toutes les deux, elle pour toujours et moi pour quelque temps. Et ces obsèques ont été un vrai, vrai bonheur, si je puis dire. Voilà ce que m'a dit cette patiente. Elle a pu donner, pardonner sur le lit de mort de sa mère. Et j'ai remercié. Remercié cette jeune femme d'avoir été en colère contre moi, ce qui lui a permis d'agir et de réaliser qu'en fait, si elle n'avait pas pu dire tout cela à sa mère, si elle n'avait pas pardonné, elle aurait gardé pour un bon moment ce poids lourd, le poids lourd de la tristesse. Ainsi, pour conclure, je voulais dire, l'amour est enfin espérance et foi dans la providence. Mon ami et maître regretté Louis Vasquez me disait, tout se joue jusqu'à la fin. Et par le témoignage que vous ai donné tout à l'heure, eh bien, c'en est une belle expression. Mais pour nous, enfants de Dieu, et pour moi, psychologue chrétienne en particulier, tout se joue jusque dans l'éternité. Car Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Je vous remercie de votre attention.
Alors Marie-Christine, peut-être une question par rapport à ce que vous avez dit en première partie d'émission. Oui. Tout d'abord, vous avez cité donc l'exemple de ce père et de ce fils qui étaient en désaccord parce que le père voulait que son fils reprenne l'affaire familiale et le fils voulait faire de la musique. Alors, sans préjuger des talents du fils en matière musicale, est-ce que dire non, quelquefois, est-ce que ce n'est pas justement une preuve d'amour? Par exemple, un enfant qui veut faire de la musique, mais qui n'aurait pas le talent nécessaire pour y parvenir, est-ce que ce n'est pas dans son intérêt de lui dire non, tu es sur une mauvaise voie?
Alors oui, c'est une très bonne question et je vous remercie de la poser parce que c'est vrai que dans l'éducation, nous avons toujours pensé que le non était important dans le sens de donner des limites et aussi de faire confiance en capacité de l'enfant à comprendre effectivement le sens de ce nom. Et pour en venir peut-être à l'expérience de cette famille, de par ce message d'amour réciproque qui a été donné, le père a dit, bah, écoute, fais ton expérience, vas-y, fais de la musique comme tu l'entends. Et en fait, effectivement, ce jeune homme n'avait pas le talent requis, mais par contre, il s'est aperçu par lui-même, justement, que c'était pas vraiment ça qu'il cherchait. Depuis que son père lui avait dit qu'il acceptait qu'il fasse de la musique, il s'est rendu compte que c'était plus transmettre l'amour de la musique en étant professeur de guitare, que finalement c'est là qu'il pouvait s'épanouir le plus. Donc je pense que le non est toujours possible, mais il est peut-être plus facile de dire ben écoute, bien sûr quand tu veux sauter d'un mur et que tu risques de tomber, on dit ben, non, on peut plutôt dire stop. Hein. Et dans le cas de ce père vis-à-vis de ce fils, c'était peut-être dire oui, mais fais ton expérience et tu verras par toi-même. Alors, je pense que le non brut comme ça peut être blessant parce que souvent, si je dis non à quelqu'un, la personne peut ressentir un non qui est non, je ne t'accepte pas comme tu es. Souvent dans la communication, les personnes ne réalisent pas très très bien quand nous leur disons non, parce que c'est comme si on disait non à la personne. Alors plutôt de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, si c'est une relation d'échange entre des amis, entre personnes qui sont de la même génération, ça passe mieux. Et lorsqu'il y a cette relation filiale, cette relation parentale, parent-enfant, je pense qu'il est possible de le dire, mais en laissant une ouverture. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, ou moi je trouve que tu serais peut-être plus habile dans autre chose, la menuiserie ou d'autres activités. Mais fais ton expérience. Je veux t'accompagner dans cette expérience. Voilà ce que je pourrais vous dire. Allô?
Alors, Marie-Christine, je viens juste de prendre un appel. Il s'agit de Marie-Céline qui a une question à vous poser. Marie-Céline, c'est à vous. Marie-Céline?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'ai entendu votre émission et puis donc j'aurais voulu vous poser une question parce que bon, ben moi j'ai des filles et j'ai beaucoup de mal à discuter avec elles, à converser. J'ai eu pas mal de soucis dernièrement, je pensais que je pouvais les aider, hein, notamment à ma plus jeune fille parce qu'elle a perdu son mari. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous et puis qu'on pouvait échanger. Et finalement, il s'est avéré qu'elle me dit, de toute façon, quand j'étais petite, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour me protéger. Donc, j'ai été piquée, j'ai essayé de comprendre. Bon, j'ai mis un petit peu ma vie à plat. Bon, je me suis dit, moi, j'ai reconnu ma part de responsabilité dans cette situation. J'ai refait un petit peu, je me suis posée, puis j'ai analysé un petit peu mon passé et puis ce qui s'était passé, quoi. Donc, j'ai compris des choses. Donc, ma fille, donc, maintenant, est dans le sud, du côté de Foix. Et donc, je me suis dit que c'était bien qu'elle s'éloigne un petit peu, parce que, bon, de toute façon, on n'arrive pas à parler, un peu de distance entre nous. Et puis, une fois au téléphone, comme ça, ça aurait été bien pour parler. Mais le problème est que, bon, quand je l'ai au téléphone, j'arrive encore à son bébé. Et puis, j'arrive encore à la blesser involontairement. Bon, j'essaie de lui parler, mais tout ce que je lui dis, en fait, c'est elle le prend comme un reproche. Donc voilà, j'aurais voulu savoir que faire.
Oui. En tout cas, ce que je trouve déjà très encourageant dans ce que vous dites, c'est que malgré les difficultés de dialogue, malgré les kilomètres qui vous séparent, peut-être les malentendus aussi, les reproches réciproques, vous tenez bon. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes là dans la relation. Et ça, je pense que c'est très important, qu'à long terme, déjà, ça a des effets. Parce que même si la relation est difficile, le lien reste. Et vous, en tant que mère, vous montrez que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les blessures, les moments dramatiques qui se sont passés, eh bien, vous êtes là. Donc déjà, ça, c'est un acte d'amour très fort. Et je me dis aussi que si votre fille se permet de vous dire tout cela, vous faire des reproches, vous dire je suis blessée, vous dire on ne dialogue pas, etc. Tout ce que vous savez qu'elle peut vous dire, ça veut dire qu'elle a confiance en votre relation, qu'elle a confiance en votre capacité à l'entendre. Parce que je connais des relations compliquées, où les enfants n'osent pas dire les choses à leurs parents parce qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ont peur de ne pas se sentir aimés. Si votre fille est capable de vous dire tout cela, c'est qu'elle sait que vous pouvez l'entendre. Bien sûr, ça blesse, bien sûr, ça fait du mal, mais il y a toujours ce lien fort. Donc, elle a confiance en vous. Après, vous vous posez la question, comment faire? Je comprends, parce que vous voudriez que cette relation s'améliore. Hein? Mais avec le recul, comme ça, en discutant, est-ce que vous pourriez me dire ce qui a déjà un petit peu changé dans cette relation difficile? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire qui a un petit peu fonctionné?
Oula, je ne sais pas grand-chose. Hein. Je trouve quand même que ça stagne. Ou alors, je ne suis pas assez patiente, mais oui, je trouve que ça stagne. Notamment, bon, ben, je sais que bon, financièrement, elle a des problèmes, donc j'essaie de l'aider. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la dernière fois, bon, ben, j'ai pris mon petit-fils chez moi pour l'emmener chez l'opticien, parce que déjà, elle n'avait pas le temps. Donc, je me suis occupée de mon petit-fils. Je l'ai pris pendant 2-3 jours en vacances et je me suis occupée de l'opticien. Bon, j'ai pas la consultation, c'est pas un souci, hein. Financièrement, je pense, elle me dit que ça va bien et donc, je dis, bon, ben, il faut des lunettes pour le petit. Donc, je l'appelle et je lui demande, bon, bah, tu veux mettre combien dans les lunettes? Donc, elle me donne le montant. Elle me donne le montant et puis ensuite, quand elle me rappelle et puis elle me dit, maman, j'ai bien réfléchi et puis c'est très dur financièrement et voilà, je vais faire ça comme ça, je vais te payer en plusieurs fois, mais j'ai pas de chèque ou quoi que ce soit. Et bon, je sais que bon, c'est pas le problème financier, mais c'est pour vous donner un exemple. Elle va me dire une certaine somme, mais elle n'a pas. Et puis, elle veut, quand elle me voit, quand elle est très fière de sa situation. Maman, t'as vu comme j'avance, mais je vois pas d'avance, quoi. Et ça, j'ai envie de lui dire, mais écoute, essaie de voir autrement, mais voilà, je sais pas comment lui faire passer le message. Est-ce que je dois lui dire ça? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ne pas lui dire, c'est laisser s'enfoncer, et lui dire, c'est la blesser. Donc, je suis perdue. Voilà.
Oui, je comprends. Et vous disiez qu'à certains moments, vous rendiez compte que vous aviez des propos qui pouvaient la blesser, même si ce n'est pas votre intention, mais où elle pourrait se sentir blessée. Quel type de propos, par exemple, vous avez dit?
Par exemple, bon, je devais descendre à Noël, enfin, elle m'a demandé de descendre à Noël chez elle. Et bon, bah, il s'est avéré que de toute façon, je peux pas, mais j'ai dit, bon, bah, je viendrai peut-être. Hein. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone, je dis, bah, je peux pas, finalement, je peux pas descendre. Et puis, je fais, c'est dommage, parce qu'en plus, ça aurait été l'occasion de rencontrer ses beaux-parents. Et donc là, elle m'a dit, ouais, mais c'est pas les beaux-parents, c'est que pour ça, moi, tu m'aimes pas, tu nous aimes pas. Je sais pas si je me suis mal prise aussi, peut-être. Mais voilà, ça m'a... Elle sait que je l'aime, pourtant je lui ai dit. Surtout qu'avant de partir, je lui ai expliqué que je l'aimais, que voilà, que j'avais fait des choses. Je lui ai demandé pardon, notamment des choses qui m'ont blessée, parce qu'elle était enceinte de mon petit-fils et je lui avais demandé de se faire avorter. Elle n'a pas voulu. Aujourd'hui, je lui demande pardon parce que c'est la seule chose qui l'a sauvée, quoi, parce qu'elle a perdu son mari et elle s'est raccrochée à son fils. Donc, je lui ai demandé pardon, parce que c'est vrai que j'ai été dure, je savais pas moi-même, donc je savais pas que l'avortement, c'était pas bien, quoi. J'ai vu cette solution pour elle quand elle était enceinte, parce qu'elle avait déjà des problèmes financiers. Elle travaillait pas, son mari travaillait pas, un enfant qui arrive, je sais pas comment elle va faire, quoi. Donc, mais voilà, je lui ai demandé pardon pour ça, parce que c'est vrai que c'était, j'aurais pas dû le dire, parce que j'ai fait un long chemin au niveau de la foi, et il est vrai que maintenant, j'ai vu beaucoup, ben, j'entrevois beaucoup de choses, j'ai encore un grand chemin à faire, mais j'entrevois beaucoup de choses qui sont pas bien, voilà.
Oui, et si vous envisagez que les relations s'améliorent, quel serait le plus petit signe qui vous ferait dire, bah, tiens, ça va un peu mieux? Ça pourrait se manifester comment, cette amélioration relationnelle?
Ben déjà, moi, je lui ai dit déjà que s'il réagit, déjà, la première chose, je pense que ma fille, je pense qu'elle n'a pas fait son deuil de son mari. Elle s'est éloignée, mais le trou noir, il est toujours là. Donc, le camoufler, c'est, voilà. Et puis, c'est vrai qu'elle a eu une enfance très difficile, hein, très difficile par rapport à la différence qu'il y avait entre sa sœur et elle par rapport à son père. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des préférences pour la grande et puis c'était flagrant. Moi, j'ai pas voulu le voir, mais bon, maintenant, aujourd'hui, je dis c'est vrai, c'est comme ça. Mais lui, aller voir un psychologue, je lui ai dit, le jour où tu verras, je lui ai dit, va voir un psychologue, fais-toi aider, tu peux pas rester comme ça, parce que en fait, c'est traîner derrière toi le mal que tu as au fond de toi, et tu risques même de le transmettre à ton enfant. Donc oui, un avancement, ça serait qu'elle me dit, je suis allée voir un psychologue, pour moi. Et puis, voilà, pour recommencer quelque chose de net, voilà.
D'accord. Et parce que ce que vous dites, c'est que finalement, c'est quand même la relation qui est difficile. Donc, vous parlez de psychologue et je suis d'accord avec vous là-dessus. Et dans quelle mesure vous pourriez peut-être lui présenter de manière différente, lui dire, bah, si tu veux, nous pourrions aller ensemble voir un psychologue, ou lui dire, bah, peut-être que tu pourrais y aller parce que ça pourrait aussi m'aider dans ma relation avec toi. C'est-à-dire vous mettre dans, vous engager dans la relation. Parce que dans mon expérience, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aller consulter psychologue ou psychothérapeute, psychiatre, etc. Et quelquefois, quand on leur dit va consulter, ils refusent. Mais si on leur dit, bah, écoute, ça m'aiderait que tu y ailles, ou si tu veux, je vais t'accompagner pour que ça se passe mieux, etc., ça, quelquefois, ça débloque les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait. J'y ai pensé à ça, j'y ai pensé. Oui. Voilà. Mais, par contre, voilà, maintenant, je sais que moi, je suis chrétienne, et j'aimerais trouver une psychologue chrétienne, et puis à ce moment-là, oui, ça fait quelque chose de... Déjà, moi, peut-être y aller, déjà, pour expliquer le plus gros de mon problème, et puis y aller avec elle, oui, ça pourrait être une solution.
Oui, je pense qu'avec Radio Maria, vous pourriez justement en parler, parce qu'il y a effectivement des psychologues chrétiens un petit peu partout en France, donc je pense que vous pourriez trouver quelqu'un qui puisse vous écouter et prendre en considération ces deux dimensions, la dimension relationnelle, psycho-affective et la dimension spirituelle. C'est très important. Voilà.
Tout à fait.
Bien. Écoutez, vous êtes sur le bon chemin. Celui de, voilà, de la tempérance, celui de la persévérance et celui de l'espérance. Donc voilà, c'est très encourageant. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci Marie-Céline.
Au revoir. Au revoir.
Alors Marie-Christine, nous avons reçu un message, une personne qui souhaiterait vous contacter hors antenne. Je vais quand même généraliser donc le cas qu'elle expose dans son message, parce que peut-être d'autres personnes peuvent être dans une même situation. Lorsque un viol a été commis dans le cadre familial, et que la victime de ce viol essaie d'en parler, n'arrive pas à en parler à sa famille, ou quand, chaque fois qu'elle a essayé d'en parler, elle s'est retrouvée exclue finalement du cercle familial. Que dire à ces personnes qui sont dans cette situation?
Alors, c'est vrai que cette situation est malheureusement assez fréquente, en fait. Parce que si la personne victime d'inceste, hein, parce qu'un viol intrafamilial s'appelle inceste, la question de l'inceste est toujours délicate, mais il est vrai que la personne victime d'inceste a probablement déjà fait du chemin parce qu'elle souhaite en parler et qu'elle a essayé d'en parler. Et ça, c'est une démarche déjà très importante. Je réalise qu'on m'a fait du mal, volontairement ou involontairement. Je me dis que c'est important d'en parler pour libérer cette parole, parce que souvent, autour de la question de l'inceste, se pose la question du silence pour maintenir un secret. Donc, parler, c'est déjà dévoiler un secret. Et c'est une démarche déjà énorme d'être capable de se dire « il faut que j'en parle ». Après, effectivement, il y a des familles qui ne sont pas en mesure, pour le moment ou peut-être jamais, d'entendre cette parole de vérité. J'ai été victime d'inceste. Après, la question à se poser, c'est à qui dire cette parole? Est-ce que c'est à la personne qui a été l'auteur de l'inceste? Est-ce que c'est l'entourage qui a été qui est sollicité par la personne? Donc c'est vrai que c'est déjà deux paroles différentes. Ensuite, il y a aussi une dimension très importante à savoir, c'est que les personnes qui sont auteurs d'inceste, auteurs de viol, ou auteurs d'attouchement sexuel, eh bien, nous savons que la majorité de ces auteurs ont eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles, voire d'inceste. Il y a cette dimension de la répétition, une dimension transgénérationnelle, une répétition de génération à génération. Donc, il est possible aussi que cette famille, qui refuse d'entendre ce qui s'est vraiment passé, baigne dans un environnement, dans un entourage, dans un climat relationnel de type incestueux. Donc nous pouvons faire l'hypothèse qu'une personne victime d'inceste n'a pas été la seule victime dans cette famille. Donc il peut y avoir des résistances face à cette révélation. Après, je crois que quelquefois, quand on essaie de parler et que ce n'est pas possible à entendre de la part de l'entourage, eh bien, il faut peut-être faire autrement. Libérer une parole dans une autre dimension. Et ça, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit, justement, le faire en thérapie, soit le faire en thérapie mais avec certains membres de la famille qui sont proches, qui peuvent entendre cette parole. Il y a plusieurs possibilités. Mais il est vrai, et je comprends cette auditrice, que la plupart du temps il y a la peur en fait d'être exclue, la peur d'être rejetée. Et c'est souvent un long chemin pour la famille de l'entendre. Et quelquefois, la famille ne l'entendra jamais. Donc c'est vrai que cette démarche de révélation, elle est importante. Mais peut-être que dans certains contextes et pas d'autres. Et ensuite, c'est comment effectivement faire le constat qu'il y a des choses possibles et d'autres pas possibles. Il y a des paroles possibles et d'autres impossibles à entendre. Et c'est aussi tout un chemin de deuil face à un travail de vérité nécessaire. Donc cette auditrice a fait déjà un long chemin. Il n'est probablement pas terminé, mais on peut quand même considérer que ce chemin déjà de révélation en soi, de révélation à l'autre, quel qu'il soit, de prise de conscience que on a donné de soi, de son corps, de son amour, qu'on a été abusé de son amour, de sa confiance, de sa loyauté, eh bien c'est déjà une grande démarche. Après, effectivement, c'est le dialogue, possible ou pas possible, mais tout dépend de la personne à qui on va le dire. Je pense à une jeune femme qui, justement, a révélé un inceste gravissime, un inceste fraternel, paternel. Enfin, c'était très, très dur. Eh bien, elle l'a révélé. Et toute la famille, y compris sa mère, sa grand-mère, ses oncles, ses tantes, etc., lui ont dit que c'était faux. Ou si c'était vrai, c'était pas grave. Donc, elle a compris qu'elle était d'une famille incestueuse, donc qu'il n'était pas possible de faire changer cette famille. Et donc, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle change de posture, qu'elle change de positionnement, c'est-à-dire qu'elle se donne les moyens de se protéger. Et en se protégeant, eh bien, elle a pris cette décision d'aller les voir une fois par an, le 1er janvier, leur souhaiter une bonne année, rester quelques minutes et repartir. Voilà. Et c'est ce qui a été pour elle source de libération. Puisqu'elle avait déjà beaucoup donné et qu'elle savait qu'elle ne pouvait attendre rien d'autre de sa famille. Voilà ce que je pourrais vous dire.
Alors, peut-être une toute petite dernière question. Il nous reste 2-3 minutes. Un petit peu dans le sens justement de ces de problèmes dans les familles. Vous avez parlé du pardon en première partie d'émission. Lorsqu'on prend, par exemple, si on prend le cas d'un parent sans aller jusqu'à des situations gravissimes comme l'inceste dans la famille, si on prend le cas d'un parent qui a été négligent vis-à-vis de ses enfants, ne s'occupant pas d'eux, les enfants voudraient pardonner à ce parent, mais le parent est dans le déni et se croit irréprochable.
Oui.
Comment les enfants peuvent finalement, en étant dans le déni, il empêche ses enfants d'accéder au pardon?
Oui. Alors c'est vrai que c'est tout un travail thérapeutique qui est déjà de comprendre peut-être les actes de ses parents, de ce père ou de cette mère négligente, voire maltraitant, c'est de remonter à la génération d'avant, c'est-à-dire de prendre conscience que ces parents ont été des enfants et qu'ils ont appris d'une certaine manière ce que c'était la relation éducative, la relation parent-enfant. Et souvent, en fait, en tout cas, les personnes qui viennent me consulter, en donnant du sens à cette négligence, à cette maltraitance, commencent un travail de pardon. Mais le pardon est un long travail, très très long travail. C'est-à-dire de se dire, effectivement, mon parent, ma mère, mon père, mes parents ont cru bien faire. Ils étaient dans cette dynamique, voilà, de apporter le mieux. Mais lorsque justement on essaie de regarder comment ils ont été éduqués, ils n'ont pas pris les parents pris de distance vis-à-vis de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. C'est-à-dire qu'un parent, en fait, garde son enfant intérieur. Dans chaque personne, il y a un enfant intérieur. Un enfant qui a été joyeux, qui a été bien traité, qui a été blessé, voire maltraité, qui a été lésé. Et souvent, en fait, le parent qui ne prend pas du recul vis-à-vis de sa propre histoire a tendance à répéter avec les négligences. Et donc, c'est tout ce chemin que doit faire, enfin, que devrait faire ou que peut faire, parce que c'est un travail difficile, hein, c'est prendre conscience que derrière le parent, il y a l'enfant, un enfant qui lui-même a peut-être été négligé, a peut-être été maltraité. Ce que je veux dire, c'est que le déni d'un parent négligent a une fonction qui est celle d'exprimer une loyauté vis-à-vis de ses propres parents. Je fais comme mes parents ont fait. Et pour tenir en tant que parent, je dois nier la souffrance que j'ai eue quand j'étais enfant. Donc c'est cette compréhension, ce qui ne veut pas dire accepter. Le patient qui n'arrive pas à faire comprendre à son père, à sa mère, à ses parents négligents qu'ils ont souffert parce que le parent est dans le déni, eh bien ce patient peut faire justement un chemin intérieur qui est de dire comment mes parents ont vécu en tant qu'enfant, je peux comprendre. Si je peux comprendre, je peux peut-être commencer à mieux entendre mon parent qui a été un enfant. Donc c'est toujours la même chose en fait, c'est prendre le temps du dialogue et ce dialogue, eh bien, il se construit avec la compréhension, en fait, de la souffrance de l'autre. Si moi, j'étais négligée par ma mère, eh bien, comment je peux être à l'écoute de la souffrance de ma mère? Soit parce que ma mère a perdu son mari, et aussi parce qu'elle-même a été négligée. Et moi, la mère qui dénie la négligence, comment je peux être à l'écoute de la souffrance légitime de mon enfant qui est maintenant adulte, ma fille, mon fils, etc. Donc essayer de se mettre un peu à la place de l'autre, même si c'est difficile, et de se dire que l'autre a peut-être de bonnes raisons de souffrir, a de bonnes raisons d'exprimer cette souffrance. Et un dialogue, c'est pas facile. On a toute une vie pour apprendre à dialoguer. C'est jamais une facilité. C'est jamais, comment dirais-je, très constructif au départ. Hein. C'est déjà faire un chemin en soi avant de chercher le dialogue. Comment je peux déjà comprendre la souffrance de l'autre? J'accepte ma souffrance, mais comment je dois aussi entendre la souffrance de l'autre? Quelle bonne raison de souffrir? Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.
Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir permis justement d'expliquer un peu plus précisément, voilà, ce que c'est pour moi l'amour en psychologie. Bonne journée à tout le monde.
Merci, au revoir.